Radio Kapi.
Le journal. Billy Ivan Lutumba à la présentation.
Nouvelle macabre en ouverture du journal de ce soir sur Radio Kapi. Un camion assurément en panne de frein a ramassé des piétons à hauteur de l'entrée Matadi Mayo sur la route nationale numéro 1. 7 personnes sont tuées et 7 autres sont blessées. Cet accident est survenu ce matin. Rapprocher les gestionnaires des entités administratives et des commandements de la police des populations locales, c'est le sens de la remise d'une dizaine de jeeps d'une dotation du gouvernement central aux administrateurs des territoires et commandants des unités de la police à Nitouri. Nous vous en parlons aussi dans cette édition Vespera sur Radio Okapi. Jean-Toby Okala, responsable des communications stratégiques et de l'information publique de la MONUSCO à Beni, parle en fin de ce journal des résultats issus des activités que mène la MONUSCO depuis 25 ans de mission en RDC. Il est notre invité. Découvrons à présent les autres contours de tous ces faits d'actualité et bien d'autres à travers le pays. Bienvenue, excellente condition d'écoute à vous qui aimez vous informer sur Radio Kapi. Aimable auditeur, bonsoir. À Kinshasa, un accident de circulation a fait 7 morts et 7 blessés. C'est avant midi sur la route nationale numéro 1 à l'entrée Matadi Mayo dans la commune de Mongafula. Un camion en provenance du Congo central a fini sa course sur des passants. Le bourgmestre de cette commune parle d'un problème de freinage. Joint par Plamedi Mbiavanga, Severin Lumbu explique les faits. Il profite de cette occasion pour lancer un appel davantage de prudence et de vigilance aux propriétaires des véhicules, mais aussi à tous les usagers de cette route.
Entre 7h30 et 8h, un véhicule sinotric a connu une panne de frein. Il est venu ramasser le paisible citoyen à l'entrée de l'avenue 3e République à Matadi Mayo, tuant 7 personnes et blessant 7 autres. Les 7 morts sont à l'hôpital général de Kinshasa, à la morgue, et les 7 autres sont soignés sur place dans un centre de santé. Le véhicule venait du Congo central. Nous avons supervisé l'évacuation des corps avec nos services. Nous avons instruit le policier et la PCR, parce que l'un des policiers aussi a été blessé à la tête, aux citoyens d'être aussi vigilants aux arrêts des bus, être loin de la chaussée pour bien remarquer ce qui se passe dans leur environnement. Au niveau de la police, d'éviter que les gens vendent aussi sur la chaussée. Patron des entreprises, il faut toujours engager des bons chauffeurs qui méritent une formation reconnue par la loi.
Il a encore plus ce jeudi à Kinshasa et comme si souvent, dame la pluie a entraîné des dommages. C'est notamment le cas dans la commune de Matete. Plusieurs familles sont sinistrées au quartier Vitamine, Maziba, des Bonhommes et Lunyonzo suite aux inondations. Elles sont une centaine avec deux pluies successives, affirme le bourgmestre de cette commune. Elles ont perdu beaucoup de biens. À Maluku, outre les inondations, des routes d'importance capitale comme celle menant au port de Ngafula, également celles de Maluku, sont très endommagées. Son bourgmestre lance un SOS pour une intervention rapide des autorités provinciales et nationales afin d'éviter leur coupure totale. L'appel du bourgmestre Alexis Mampa Mundoni au micro de Babel Pongo Masimango.
Chez nous, à Maluku, cette pluie a causé beaucoup de dégâts. Il y a vraiment des dégradations des routes, telle que la route de Ngafura, qui mène vers le port, là où on fait sortir les denrées alimentaires. Donc la route est dans l'état de délabrement. Nous voulons l'intervention des autorités compétentes de la ville pour arranger cette situation, parce que c'est une route qui ravitaille la ville de Kinshasa en poisson, en maïs et foufou aussi. Et il y a eu des inondations, telles qu'au niveau des zones 6, dans des maisons qui sont toutes autour. Il y a l'écoulement aussi du mur de la Sifoko. Tout ça, ça s'est passé par rapport à cette pluie qui s'est abattue la nuit.
Et dans le Congo central, la pluie qui s'est abattue hier mercredi à ce jeudi sur la ville de Boma a causé des dégâts matériels et inondé des maisons, laissant de nombreuses familles sans abri. Le président de la société civile de cette entité qui l'affirme indique que ces inondations ont même empêché le passage de la cité vers le centre-ville au niveau de la commune du Kalamu. Selon Titimpungu, les eaux qui inondent la ville proviennent de la rivière Kalamu qui, chaque saison pluvieuse, déborde de son lit du fait de l'irrégularité des travaux de son curage. Le président de la société civile de la ville de Boma interpelle ainsi les autorités compétentes locales. On l'écoute dans ses propos recueillis par Nana Plurich Mambou.
Certains endroits étaient sous l'eau, causant des dégâts matériels, mais jusque-là, aucune perte en vies humaines n'est signalée. Comme l'eau a débordé les lits de la rivière au petit matin, alors que les gens étaient déjà réveillés. Et nous avons eu la vie sauve grâce aux travaux de curage de justesse amorcés par l'honorable Justin Luemba en 2023. Cependant, il faut dire que la gestion des déchets reste un problème préoccupant dans la ville. Les ordures s'accumulent dans les quartiers, exacerbant les risques de salubrité et d'obstruction des caniveaux, ce qui pourrait aggraver les effets des pluies. Et jusque-là, nous attendons la réaction des autorités de la ville pour des mesures préventives aux inondations. Au niveau de la société civile, nous proposons la mise en place d'un système de gestion des déchets par la création des décharges publiques et bacs de récupération des déchets.
Actualité dans la province de l'Ituri. 14 jeeps dont du gouvernement congolais ont été remis ce mercredi aux animateurs de l'état de siège dans la province. Ces engins vont faciliter l'itinérance des agents de l'ordre en ville ainsi qu'aux administrateurs des territoires pour renforcer leur présence dans les localités en proie aux conflits armés. La société civile salue ce geste du gouvernement mais pointe du doigt l'état défectueux des routes. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
14 jeeps ont été affectés pour la mobilité des éléments de la police pour des opérations de maintien de l'ordre. Parmi ces véhicules, 4 sont destinés aux administrateurs des territoires dans 4 territoires dont Djougou, Irumu, Mambasa et Mahagi. Ces engins roulants vont aider les bénéficiaires à organiser des itinérances sur le terrain pour rapprocher l'administration de la population. Le général Johnny Luboy en Kachama.
Nous sommes en opération et chez nous, chaque fois que nous avons des problèmes, la question c'est toujours, ils sont arrivés en retard. Avec cette dotation, je suis sûr qu'un grand problème est résolu.
La société civile salue cette dotation qui va améliorer les conditions de travail des agents de l'ordre. Cette structure citoyenne plaide cependant pour la réhabilitation des axes routiers en vue de permettre à ces policiers de vite intervenir dans le cadre de la protection de la population. Dieudonné Lossa.
La route Mungwalu pose sérieux problèmes, alors que partout là, on a besoin de ces administrateurs ou ces policiers urgemment. Ça parlait des routes et de cette agricole qui sont impraticables.
Le gouverneur de province promet de faire un plaidoyer à la hiérarchie pour le territoire d'Arou qui n'a pas été servi. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Parlons à présent des prouesses de la société Kivu Entrepreneur. Eh bien, cette société a célébré ce 27 novembre ses 10 années d'existence en tant qu'incubateur entrepreneurial dans le Nord Kivu. Kivu Entrepreneur est un incubateur et une structure qui promeut l'entrepreneuriat. Des nombreuses réalisations mises sur pied, dont la formation des plus de 700 entrepreneurs, plus de 700 PME, financées grâce à l'accompagnement de KE et plus de 1300 plans d'affaires développés. Le général Dani Yangba, tous les efforts de cette société, on l'écoute dans ses propos recueillis par Denise Lukesso.
Kivu Entrepreneur fait la fierté de notre province pour son sérieux, ses réalisations et surtout pour sa stabilité institutionnelle. Les 10 ans de vie, et ce, malgré le contexte économique et sécuritaire difficile dans la partie est de la République démocratique du Congo, à vrai dire, Kivu Entrepreneur constitue un véritable modèle de résilience et de compétences pour notre province qui s'illustre par un écosystème entrepreneurial dynamique et varié. Cette société a pu s'ériger en véritable leader dans le domaine de l'entrepreneuriat et de la consultance. Ses efforts ont non seulement été couronnés par le sommet le plus élevé de notre pays suite au décernement du prix du meilleur incubateur de la République démocratique du Congo en 2023, mais aussi Kivu Entrepreneur a été récemment couronné à l'international comme meilleur incubateur d'Afrique à l'occasion du sommet organisé à Accra au mois d'octobre de cette année.
Sachez que Kivu Entrepreneur est présente dans 6 villes du pays, Goma, Bukavu, Bunia, Lubumbashi, Mbujimayi et Kinshasa. Dans la province du Nord Kivu, l'opérateur économique Kasso Leshamo qui dénonce l'occupation et la destruction par les FRDC de sa ferme de Kingi située à près de Sakié dans le territoire de Masisi. La destruction qu'il qualifie de méchante a impacté négativement même ses activités à Goma. Il parle des recettes qui sont générées par ces terres. Avec un chiffre d'affaires annuel de $500,000 avant la guerre, aujourd'hui sa société, dit-il, a perdu environ 90% de ce chiffre. Autre conséquence de cette guerre, une dizaine d'employés mis au chômage forcé. Au micro de Denis Lukesso, Chamo Kikasso explique comment la guerre pèse sur ses activités et sur l'économie de la province. Il demande au gouvernement d'en finir.
Nos militaires de FARDC avec les Ouazalendo occupent ma concession. Nos travailleurs ont fui et ils ont tout laissé. Et comme il y avait beaucoup de nourriture sur mes terres, les militaires ont vu que c'est là qu'ils devraient rester. Donc ils ont tout mangé. Ils ont même cassé mes dépôts et mes bureaux qui sont là-bas avec des coups de balle. Ils ont tout volé. Ils ont mangé tout ce qu'il y avait. J'avais beaucoup d'arbres fruitiers. Et quand il n'y avait plus de fruits, ils ont coupé tous les arbres pour faire des makala. J'ai zéro ressource. C'est pas seulement là-bas. Même nos entreprises ici, localement. Mon entreprise, je l'ai créée il y a 47 ans. Aujourd'hui, je ne sais plus rien faire. Mes recettes ont été divisées par 10. Avant, je variais autour de 500 000. Maintenant, c'est 50 000 par an. Quand il y a la guerre, il n'y a plus rien qui va marcher. Même si on nous donnait l'argent, qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent? Rien du tout. Si l'État vient me demander des taxes ou des impôts, je ne peux pas payer. Qu'on vienne fermer, c'est tout. Je n'ai plus d'argent. Je suis en faillite. C'est désolant. Il n'y a plus moyen de continuer. Même si on me donnait l'argent, je ne peux plus rien faire avec. La solution, c'est de terminer la guerre. Tant qu'il y aura la guerre, il n'y a rien qui peut marcher.
Rappelons que plusieurs autres fermes dans le Masisi et leur bétail ont été également touchées par cette guerre. Joint par Radio Okapi, depuis qu'Alemi aussi trouve en mission, le porte-parole de l'armée nous a répondu ne pas être en mesure de réagir en ce moment. Ituri. Un incendie a réduit en cendres l'orphelinat La Compassion dans le quartier Lengabo mercredi. Cet établissement de garde d'enfants est l'un des plus grands de la ville. Les 73 enfants qui y sont hébergés ont passé une première nuit sous le toit des voisins de bonne volonté dans le quartier Lengabo. Le responsable de l'orphelinat tire la sonnette d'alarme pour solliciter de l'aide. Sadiki Aboubakar s'est rendu sur place, voici son reportage.
Il s'agit d'un beau et gigantesque bâtiment qui est parti en fumée. Le toit, les murs, les berceaux, les matelas, les vêtements des enfants, tous les meubles, rien n'a survécu au feu dont l'origine reste inconnue. L'hypothèse d'une source énergétique est moins probable, affirme Gaël Siviroy, le responsable de l'orphelinat. Mais aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée. Rassure-t-il.
Nous avons 73 enfants, seulement 12 restent à la maison et qui ont été sauvés par la population. D'autres enfants, les restes, étaient encore à l'école. C'était ça notre chance. Le maire de la ville nous a facilement aidé avec l'extincteur de feu. Nous avons aussi recours aux amis de la Monisco qui sont arrivés aussi juste après. Eux avec les camions, l'extincteur, ça nous a aidé. S'ils n'ont pas été là, ça allait être terrible.
Du réfectoire au dortoir, il ne reste que quelques vestiges. Ce matin, les 73 enfants ont trouvé refuge dans le bâtiment d'un voisin du quartier. Gaël Siviroy lance un cri d'alarme.
Dieu a fait grâce, il y a un voisin à nous qui nous a donné un toit. Donc les enfants ont passé d'abord la nuit aujourd'hui. Et maintenant, comme c'est déjà le matin, on verra d'autres dispositions qu'on aura à prendre pour que les enfants se sentent encore mieux qu'hier.
Il ajoute que les enfants manquent de tout et que toute aide extérieure leur sera la bienvenue. Bounia, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
En actualité aussi, c'est le centre de traitement de choléra de Malimbwe dans la zone de santé de Lukafu, dans le territoire de Kasengai, province du Haut-Katanga, qui notifie de moins en moins des cas de choléra. Le constat est du ministre provincial de la Santé dans le Haut-Katanga qui s'y est rendu. D'après Joseph Sambibulanda, les efforts sont fournis en collaboration avec certains partenaires dans le MSF pour lutter contre cette épidémie qui, depuis le mois d'octobre dernier, a déjà touché des centaines de personnes et causé la mort de nombreuses autres. On écoute Joseph Sambibulanda dans ses propos choisis par Jean Gandou.
Cette aire de santé a notifié jusqu'à ce jour 409 cas, 13 décès, avec une létalité autour de 3%. Monsieur le gouverneur était passé pour remettre un lot important d'intrants, bien avant des interventions étaient données selon l'évolution de la situation. Donc nous sommes passés avec le chef de division de la santé pour voir ce qui est fait en termes d'intervention et leur impact sur l'évolution de l'épidémie. À ce jour, il y a 14 malades, il y a eu des points de faiblesse qui vont faire l'objet l'objet d'un renforcement, surtout en termes de communication avec les relais communautaires, qu'on continue la chloration d'eau dans les aires de santé les plus touchées. Les partenaires MSF et au centre de traitement avec nos agents de la zone de santé vont bénéficier de l'expertise de MSF en la gestion des épidémies, notamment le choléra.
Actualité internationale.
Cinq pays condamnent l'intensification des violences au Mozambique. Alors que la nation d'Afrique australe est en proie à des manifestations post-électorales, les gouvernements des États-Unis, la Grande-Bretagne, du Canada, de la Norvège et de la Suisse ont conjointement tenu à condamner la situation. Le scrutin présidentiel du 9 octobre a donné gagnant le parti Frelimo au pouvoir depuis 1975. Ces résultats ont été contestés et donné lieu à l'indignation de l'opinion publique qui est montée en flèche depuis. Le candidat vainqueur du Frelimo et Daniel Chapo qui succède à Felipe Nyusi et devient ainsi le cinquième président du Mozambique depuis son indépendance du Portugal. Et puis, à l'approche de la journée mondiale de lutte contre le sida le 1er décembre, l'ONU SIDA a publié un rapport crucial appelant les dirigeants à intégrer les droits de l'homme dans leur stratégie de lutte contre le sida. Malgré des progrès notables, l'Agence des Nations Unies a averti que le monde n'est pas encore sur la bonne voie pour éradiquer le sida en tant que menace pour la santé publique.
L'invité.
Ce vendredi 29 novembre 2024, la MONUSCO va totaliser 25 ans de présence en RDC. Un quart de siècle consacré à la protection civile, à la stabilisation et au soutien de la paix. Mais dans quel contexte la MONUSCO est-elle arrivée en RDC et quel bilan dresse-t-elle de ses années d'engagement? Pour en parler, Jean-Toby Okala, responsable des communications stratégiques et de l'information publique de la MONUSCO à Beni, répond aux questions de Martial Papimukeba.
Jean-Toby Okala, bonjour.
Bonjour.
Dans quel contexte la MONUSCO était-elle arrivée en RDC il y a 25 ans et quels étaient ses objectifs initiaux?
Peut-être que ceux qui ont 20 ans, 25 ans et même 30 ans ne s'en souviennent plus. Et il y a 25 ans, le pays était divisé en plusieurs parties. On va pas refaire l'histoire ici. Le Congo avait perdu son intégrité territoriale. Il était découpé en morceaux. Et donc, il n'y avait plus cette unité-là, n'est-ce pas, que les gens avaient connue. Et donc, c'est dans ce cadre que le gouvernement de la République de l'époque avait fait appel à l'organisation mondiale, l'ONU, pour ne pas la citer, puisque la RDC en est un des membres importants, pour dire, voilà, je suis agressé, je suis en train de perdre des pans entiers de mon territoire, venez à mon secours. Et c'est ce qui est à l'origine de cette mission qui va fêter cette semaine, ses 25 ans. Et donc, quand elle arrive, il y a plusieurs objectifs. L'objectif le plus immédiat, c'était d'obtenir le cessez-le-feu, que les belligérants fassent taire les armes. Et la MONUSCO l'a très bien fait. Ensuite, il fallait s'interposer entre les différents belligérants, engager des dialogues et pacifier le pays. C'est ainsi que la MONUSCO va s'installer dans notre région du Grand Nord, Kivu.
Quel est le bilan que la MONUSCO dresse de ses 25 années de présence en RDC, particulièrement en matière de protection des civils et de consolidation de la paix?
Nous ne pouvons être juges et partis. Je laisse à l'histoire, n'est-ce pas, le soin de répondre à cette question. Mais je voudrais juste faire remarquer que, en 25 ans, sur les 26 provinces que compte la République démocratique du Congo, la MONUSCO n'est plus présente que dans deux provinces aujourd'hui. Le Nord Kivu et la province de l'Ituri. Je ne parle pas de Kinshasa, qui est le quartier général de la mission. Ce qui signifie quand même que la cause de la paix a plutôt avancer. Bien sûr, il reste encore des défis. On parle des ADF, il y a des centaines de groupes armés, notamment dans la partie est du pays, mais nous y travaillons avec nos partenaires, avec le gouvernement. Nous avons un mandat que nous exécutons chaque année. On nous demande d'appuyer les FARDC, les forces de défense et de sécurité, d'appuyer l'État, et c'est ce que nous faisons. La police notamment, les composantes civiles, la société civile, tout ce qui est ONG, droits de l'homme, même vous, les médias, vous en faites partie. La MONUSCO est présente. La cause de la paix a avancé, mais il reste encore des défis, on pourra en parler tout à l'heure si vous voulez.
Exactement. Comment la MONUSCO a-t-elle adapté ses stratégies face aux défis sécuritaires persistants dans des zones comme Beni et l'Ituri?
Depuis 25 ans, la MONUSCO a été obligée de s'adapter à l'ère du temps. Vous savez, les groupes armés, que ce soit des groupes étrangers ou locaux, beaucoup sont mobiles. Ils vont d'un endroit à un autre. Et nous aussi, avec nos partenaires des FARDC, on a été obligés de nous adapter à leur modus operandi. Et c'est pourquoi au sein de la MONUSCO, non seulement on a créé une brigade d'intervention qu'on appelle la FIB, mais surtout nous avons mis en place ce qu'on appelle des bases militaires temporaires. Lorsque nous recevons des alertes que tel groupe armé est allé semer la zizanie, si vous me passez l'expression, à tel endroit, nous aussi nous envoyons nos troupes là-bas. Et là, ça peut durer une semaine ou deux semaines. Une opération ponctuelle. On appelle ça base militaire temporaire. Mais à côté de cela, nous avons aussi des bases militaires permanentes pour être au plus près des populations et traquer aux côtés des FARDC ces rebelles. Donc, la mission a évolué au fil du temps en fonction du modus operandi de ces groupes armés. Nous organisons énormément de patrouilles. Il y a des patrouilles de longue portée qui peuvent durer une semaine, qui peuvent durer 3-4 jours, plusieurs jours. Et il y a à côté de cela des bases temporaires. On va quelque part parce qu'il y a les ADF qui sont là, parce qu'il y a tel groupe armé qui est actif dans cette localité. On peut rester là pendant une semaine, pendant 10 jours, pendant 2 semaines.
Pourtant, la MONUSCO est souvent critiquée pour ce qu'on appelle inefficacité.
J'aimerais que l'on m'explique ce qu'on entend par inefficacité de la MONUSCO. Quand on est à Beni au centre-ville, quand on est à Goma, quand on est à Bukavu, à Bunia, à Kinshasa, on voit des voitures blanches monter et descendre, ça dit que nous sommes ici en tourisme. Non, non. Là, c'est le personnel d'appoint que vous voyez. La MONUSCO est sur le terrain. Elle assure la protection physique directe à plus de 400 000 personnes déplacées, rien que dans la province de l'Ituri. Oui, il y a encore des massacres qui continuent, mais qui peut nier aujourd'hui quand même que la paix n'a pas avancé? Aujourd'hui, les points chauds d'insécurité, ça reste l'Ituri et encore pas dans tout l'Ituri. Et puis, au Nord Kivu. Mais ailleurs, voyez quand même ce que l'État a fait avec l'appui de la MONUSCO. Donc,
dernière question, quels sont les grands défis à venir pour la MONUSCO dans les prochaines années et quelles priorités sont mises en avant pour assurer une transition réussie lorsque la mission prendra fin?
Je parlerai des deux défis. Le premier, c'est celui de réussir la transition. Le deuxième défi, qui est tout aussi important que le premier, c'est comment pérenniser les acquis de la présence de la MONUSCO.
Jean-Toby Okala, merci.
Merci à vous.
À vos auditeurs de Radio Okapi, nous disons aussi merci d'avoir suivi cette édition de journal.